RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Alors soyez rassurés, la clavicule s'en va. Vous avez compris, la sécheresse, la chaleur. Alors, on va commencer par moi. Oui, tiens, c'est une bonne blague. Pourquoi pas, hein, après tout. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Alors, vous savez, quand j'étais en Haïti en 2001, j'ai fait un livre là-bas, et après qu'on a vendu au profit de l'association SOS Enfants du Monde, dont j'étais membre, j'étais même le vice-président de cette association. Et c'était très dur. Alors, c'est encore plus dur maintenant, mais à l'époque, c'était déjà très dur. Et j'avais appelé un poème, donc je l'avais écrit, celui-là, j'ai écrit en 2002. Enfin, c'est en 2002 que j'étais à Jérémy, en Haïti, à 5h50, heure locale. Peuple cassé. Oui, parce qu'il était vraiment cassé, le peuple, hein, je peux vous dire, moi. Les enfants regardaient la vie leur échapper. Timoun Bobo, petit garçon malade ou blessé, ne savait plus grandir, sans faire vieillir son corps un peu trop vite. La religion faisait voler l'imagination d'une énergie renouvelable en mille morceaux de misère, sans s'en rendre des comptes. Il y a tellement de religions là-bas, ils ont tous un pas de porte. Alors, les religions que nous, on ne connaît pas, hein, il y a plein de religions, mais venant de différents pays, en fait, hein, même des États-Unis, d'ailleurs. Et ils sont tous... par exemple, on avait un monsieur qui nous guidait dans les rues, tout ça, quand on avait des choses à faire. Et en attendant, eh bien, il avait un livre de prière. Alors, on ne sait pas de quelle religion c'était, mais il priait, il lisait, pendant qu'il nous attendait, qu'on faisait une mission, qu'on allait voir l'avancement des travaux de l'orphelinat qu'on faisait construire là-bas. Hein. Voilà, bon. Alors, Dieu devenait un alibi à la pauvreté d'un peuple cassé. Le ciel n'était plus sur Haïti. Il ne regardait plus en bas vers la mer, qui resserrait ses bras autour d'un peuple pour en extirper une dernière goutte d'espérance. L'enfant vendait son innocence pour un bout de rien. Son corps ne discutait plus avec ses mouvements. Son esprit cherchait l'avenir sans le savoir. L'enfant devait un objet qui vivait au jour et la nuit à la recherche d'une bouée de sauvetage sur terre. À Port-au-Prince, donc c'est la capitale, les rois se bouchaient les oreilles pour ne plus voir ce peuple qui criait sa faim, et parfois bien plus encore quand la nature se permettait des fantasmes climatiques en rigolant de sa distribution de malheur. Alors, tremblement de terre, cyclone, ouragan, oui, tout y passait. C'est l'arc Caraïbe hein, qui fait ça. C'est pas seulement en Haïti, ça a lieu aussi, par exemple, dans en Outre-mer, c'est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, vous voyez, ou à Cuba, par exemple. Vous voyez, tout cet arc, le Caraïbe, est sujet à des cyclones, des tremblements de terre, un tas de trucs, voilà. Hein. Voilà comment ça se passe. Bon, voilà, bon, c'est triste. Ouais. C'est triste, mais bon, malheureusement, oui. Même 25 ans après, ça n'a pas changé. Hein. Bah, c'est pas moi qui allais tout changer. Hein. Nous, on a essayé d'apporter ce qu'on pouvait en construisant un orphelinat, parce qu'il y avait des enfants qui étaient à la rue. C'était les bonnes sœurs québécoises qui s'en occupaient, mais elles avaient besoin d'un hébergement pour eux. Voilà. Hein. Donc, on a tiré des fonds ici sur la France pour pouvoir payer là-bas, faire construire l'orphelinat. Alors, on va changer un petit peu du Maurice Meslier. Il en a marre. Hein. Il en a marre, on n'entend que lui. Tous les vendredis, on l'entend, lui. Et puis même la semaine. Oh, Maurice Pasternak. Alors, vu le nom, je pense qu'il est des pays de l'Est. Hein. Bon, je vais essayer de trouver s'il y a une intro. S'il y a une intro. Non, ils disent pas. Alors, ils disent pas ce qu'il est. Non, ils disent pas. Non, ils veulent pas le dire, c'est ça. Bon, tant pis pour lui. Par contre, je vais vous lire un de ses poèmes. Laissons tomber les mots. Voilà. Laissons tomber les mots, comme le jardin délivre le zeste et l'ambre, distraitement, généreusement, à peine, mais à peine, ne cherchons pas pourquoi le feuillage est aspergé si cérémoniquement, non, si cérémonieusement, pardon, de citron et de garance. Mais qui donc fit larmoyer l'aiguille ? Et qui donc, à torrent, s'est rué vers l'étagère, sur les notes et à travers les perches, à travers l'écluse des persiennes ? Mais qui donc a répandu le stibine du sorbier sur le petit tapis derrière la porte ? Qui l'a recouvert de la serpillière aux belles italiques, claires et frissonnantes, ça se dit pas, c'est pas dans la langue française. Tu demanderas qui a décidé de la grandeur de ce mois d'août. On n'y est pas encore, hein, c'est demain. Hein. Oui, parce qu'on est le 31 aujourd'hui. Demain, on sera le 1er août. Ah hein, août. Vous voyez ce que ça veut dire, août hein. Un boxeur est août. Il est tombé, il est KO. Eh ben oui, ben là c'est pareil, demain ça va faire pareil. Mais demain, ça sera tout le monde. Alors, de la grandeur de ce mois d'août, et pour qui toute chose échappe à la petitesse, tu voudras savoir ce qui s'est plongé dans la ciselure de la feuille d'érable, quel est celui qui, depuis le temps de l'Ecclésiastate, n'a point quitté son poste de tailleur d'albâtre. Tu demanderas qui exige ainsi la souffrance en septembre des lèvres de dahlia et des reines marguerites et le vol des feuillages minuscules des cytises demandant des cariatides chenues sur les dalles humides des hôpitaux d'automne. Tu demanderas qui donc ordonne c'est le Tout-Puissant, Dieu du détail, le Tout-Puissant Dieu de l'amour, des javelons et des Edwiges. J'ignore si l'énigme de la vague lueur de l'au-delà est résolue, mais la vie est comblée de détails comme le silence d'automne. Voilà. Il n'y a pas de date. Bon, c'est pas grave. Alors, mon bouquin, il a été imprimé quand même, mais ça ne veut rien dire. Hein. En 1958, bon, ça fait quand même déjà un bail aussi. Hein. Bon, mais c'est normal. Alors, je vais quand même revenir... on va aller d'abord passer Bernard Dumay. Bernard Dumay. Alors, Dumay, c'est... et là, on est au 31 juillet. Hein. Bon, ne confondez pas les deux. Hein. Bon. Alors, c'est un... Il n'a pas de titre. À la limite, la première ligne, ça pourrait être le titre. Hein. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire. On peut toujours aller gueuler dans un bistrot, parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, parler de Boumedienne ou de Fidel Castro, parler, pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons, parler de son douceur ou bien des seins de glace, pour faire croire aux copains qu'on n'est pas plus con. Mais on n'a rien à dire, on parle de sa femme, qui ne vaut pas tripette et qui n'a plus 20 ans, qui ne sait pas cuisiner, qui n'aime pas le drame, qui découche à tout va et qui a sûrement des amants. On parle du bon Dieu, on parle de la France, ou du Vitel Cassis, qu'on ne veut pas que tu dises avant. On pense rien du tout, on dit pas tout ce qu'on pense. Quand on n'a rien à dire, on peut parler longtemps. Quand on n'a rien à dire, on parle du Mexique, de l'Amérique du Nord, et tous les gens sont fous, du pape et du tiercé des anti-alcooliques, du cancer des fumeurs et des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon, de l'île de la cité. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité. C'est beau, ça. J'aurais aimé l'écrire, ça, tiens, parce que ça me convient. Voilà. Je sens que, quelque part, j'aurais pu l'écrire. Parce que c'est à peu près les mêmes idées, quoi. Hein. Quand on n'a rien à dire, bon, on ferme sa gueule, puis c'est tout. Hein. Voilà. Bon. Dans ces cas-là, on écoute. Et quand on écoute, on apprend. À moins que l'autre d'en face, ça vous dise des conneries. Hein. Mais si vous dites des choses sensées, enregistrez. Hein. Enregistrez et gardez-les bien dans la tête, parce que là, vous pourrez dire quelque chose, après, vous pourrez reparler de ce que vous avez entendu de bien. Hein. Voilà. Bon, je ne vous fais pas la morale, hein, parce que je n'ai aucune raison de faire la morale à mes auditrices et mes auditeurs. Je les respecte. Eh oui. Alors, je vais quand même retourner vers moi sur des poèmes qui sont très vieux, parce qu'ils ont 26 ans. C'est écrit en février 2000. janvier 2000 et février 2000. Et à l'époque, j'écrivais, je faisais des petits poèmes. Hein. Maintenant, je suis trop bavard, donc j'écris beaucoup. Ben, c'est vrai, je ne faisais pas de radio à l'époque. Donc, j'écrivais très peu. Enfin, si, j'écrivais beaucoup, mais des petits poèmes. Alors, prothèse. Alors, prothèse en deux mots. Hein. Pro et un peu plus loin, thèse. Celui-là, il est de janvier 2000. Violence d'un corps étrange dans l'intimité buccale, malaise d'une famine provisoire par une nourriture terrestre liquéfiée, façade starisée et rénovée d'artifice, haut et bas de fausses histoires de synthèse, le temps penche vers toi comme le diable qui te cherche pour l'enfer éternel, te voici de nouveau pourvu d'un pour sourire. Vous l'avez compris, hein ? Moi qui suis passé par là il y a peut-être 20 ans maintenant, hein ? C'est vrai que ça fait drôle quand vous n'avez rien dans la bouche. Là, vous vous posez des questions. Je dis, mais qu'est-ce que... Je ne vais pas pouvoir sourire, sinon on va voir que je n'ai pas de dents. Hein. Et puis alors ça aide à baver. Et donc, quand quelqu'un qui bave, c'est quelqu'un qui raconte des conneries sur l'autre. Hein. On dit bien, arrête de baver sur un tel. Hein. Ouais. Et pourtant, le un tel n'est pas à côté. Donc, il ne bave pas dessus. Il bave sur lui, mais pas sur lui. Vous voyez ? Il bave sur lui, mais pas sur lui. Vous avez compris ? Bon. Alors, troisième, j'en ai fait 1776. Hein. Enfin, c'est le troisième qui est sur la revue. Hein. Père sévère. Alors, père comme un père, c'est S-E-S, et vert comme les verts, hein, de la couleur verte. Hein. Père sévère vers ta vérité, verse le verju. Dans le vert, juste vert, insère des versets et les vers qui servent. Décerne le cerne du cerneau vert, décrète le coq, ouvre le pot de vernissage, verbalise en vers le vers galant de tes rires, vers où vas-tu verser le berceau de ta chair, berce le cerveau des illusions de ta chair, les vrilles de Vesque sentent-elles l'hiver, les Vespasiennes acceptent la vessie ou la cystite du cycliste provoquée par des vestibules. Putain, j'étais fort hein, à l'époque, hein. Ah ouais, en 2000, vous rendez compte, ça fait 26 ans. J'avais quel âge, moi ? Ben, je vais avoir 59 ans, à peu près. Oh ! Je voudrais bien retourner à cette époque-là. Ah ouais, ma foi. Ben oui, parce que ça me laisserait encore plus de temps pour vivre. Mais je sais que je peux déjà vivre jusqu'à 81 ans. Donc, vous voyez, si j'avais 26 ans de moins, je sais que j'aurais encore 26 ans à vivre, et peut-être même plus. C'est de sacrés calculs hein, qu'il faut faire dans ces cas-là. Hein. Bon, on reviendra vers moi un petit peu après. On va vous passer un petit peu de musique. Alors, mon ami Didier Verguin, figurez-vous, il a fait un CD, ça s'appelle « À cœur ouvert », et sa première chanson s'appelle « Chaleur tropicale ». Alors, en fait, il a écrit « Tropical », C-O-O-L à la fin. Allons-y. Thank you. voyez, elle est très d'actualité, cette chanson. Vous savez pourquoi ? Parce que en période de canicule, vous avez vu, au début de sa chanson, il fait « Oh, 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 oh ». Et puis d'un seul coup, il arrête, ça veut dire qu'il a plus soif. Donc il continue à faire de la musique sans dire « Oh, 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 oh ». Ce qu'il fait, on dit, c'est qu'il boit de l'eau. Il ne boit pas du vin ou du Pepsi Cola ou des conneries pareilles. Hein. Bon, le vin, ce n'est pas considéré comme des conneries pareilles. Hein. Je parle du Pepsi Cola seulement. Ou du Coca-Cola, quoi, vous voyez hein. Alors, Émile Verhaeren, figurez-vous. Alors, ce monsieur, il est né en 1855 à Saint-Amand, un petit village à côté d'Anvers, en Belgique. Et Anvers, c'est flamand. Donc, il est flamand. Hein. Bon, il ne faut pas confondre les flamands et les wallons. C'est comme si on confondait les Bretons et les Alsaciens, vous voyez, c'est un peu pareil, hein, ou les Gascons. Hein. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, mais le mot Gascon, je n'aurais pas accepté qu'on puisse appeler ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Hein. Alors, voilà, donc, alors, il a un poème, enfin, un, il y en a plusieurs, parce que le bouquin, il est plein de bouquins. Hein, c'est un bouquin qui fait 220 pages. Alors, mais je vais vous lire un seul. On lira des autres après, plus tard, dans d'autres émissions. Alors ça tombe bien, le passeur d'eau. Il nous emmerde d'avoir de l'eau, tous ces gens-là. Hein. Alors moi j'en bois, mais je mets du citron vert dedans. Hein. Mais à midi, non, moi je préfère de l'eau légèrement rosée. Vous voyez ce que je veux dire hein. Bon. Et puis en apéritif, du tonique, mais avec du gin dedans. C'est meilleur. Hein. Voilà. Alors le passeur d'eau. Le passeur d'eau, les mains aux rames, à contre-flot depuis longtemps, luttait, un roseau vert entre les dents. Mais celle, hélas, qui le hélait au-delà des vagues, là-bas, toujours plus loin, par au-delà des vagues, parmi les brumes reculées. Les fenêtres, avec leurs yeux, et les cadrans des tours sur le rivage, le regardaient peiner, s'acharner de tout son corps ployant d'eux, sur des vagues sauvages. Une rame soudain cassa, que le courant chassa à vagues lourdes vers la mer. Ben oui, parce qu'Anvers, c'est au bord de la mer. Hein. Bon, j'étais à Anvers. C'était un festival de mimes, dans le cadre de Mimos, justement. Le directeur artistique de ce festival à Anvers, en fait, venait tous les ans à Mimos, à Périgueux. Voilà. Et il a vu que je faisais de très belles photos et des belles expos. Alors il m'a dit de venir faire une belle expo là-bas et de prendre des photos de tous les spectacles. Et ben voilà ce que j'ai fait à Anvers. Et c'est là que j'ai connu Anvers et son port. Et son port de tête, même. Bon, alors celle là-bas qui le hélait dans les brumes et dans le vent semblait tordre plus fortement les bras vers celui qui n'approchait pas. Le passeur d'eau, avec la rame survivante, se fit à travailler si fort que tout son corps claqua d'effort et que son cœur trembla de fièvre et d'épouvante. D'un coup brusque, le gouvernail cassa, et le courant chassa ce haillon morne vers la mer. Les fenêtres sur le rivage, comme des yeux grands et fiévreux, et les cadrans des tours, ces veuves droites des mille et en mille, au bord des fleuves, suivaient obstinément cet homme fou en son entêtement, à prolonger son fol voyage. Celle là-bas qui le hélait, dans les brumes, hurlait, la tête effrayamment tendue vers l'inconnu de l'étendue. Le passeur d'eau, comme quelqu'un d'airain, planté dans la tempête blême, avec l'unique rame entre ses mains, battait les flots, mordait les flots quand même. Ses vieux regards hallucinés voyaient des loins illuminés, d'où lui venait toujours la voix lamentable sous ses cieux froids. La rame derrière cassa, que le courant chassa comme une paille vers la mer. Le passeur d'eau, les bras tombants, s'affaissant morne sur son banc, les reins rompus de vains efforts, le choc heurta sa barque à la dérive. Il regarda derrière lui la rive. Il n'avait pas quitté le bord. Les fenêtres et les cadrans, avec les yeux fixes et grands, constatèrent la fin de son ardeur. Mais le tenace et vieux passeur garda tout de même, pour vieux quand même, le roseau vert entre ses dents. Voilà, les villages illusoires, 1895. Voilà. Oui, c'est pas encore d'aujourd'hui, ça. Ben oui, mais. Alors, moi, j'ai connu des passeurs à rame sur le canal de l'Aa, vous voyez, l'Aa, c'est la rivière qui est dans le nord, là, hein, qui s'appelle Aa, on n'y peut rien, je ne sais pas pourquoi. Et elle arrive dans un port, d'un côté, ça s'appelle Petit Fort Philippe, et de l'autre côté, Grand Fort Philippe. Et pour éviter de faire le tour, qu'il fallait faire plusieurs kilomètres pour trouver un pont, il y avait, on appelait ça la canotte. Et on payait 10 centimes à l'époque, j'étais tout gamin. Et le gars, il ramait. Et alors, le problème, c'est que quand il y avait du courant, il était obligé de faire beaucoup d'efforts. Et quand il n'y avait pas du tout de courant, ça allait tout seul. Mais après, ça s'est modernisé, ils ont mis un bateau à moteur. C'était plus facile. Voilà. Et quand il y avait marée haute et marée basse, eh ben, la distance n'était pas la même. Marée basse, il y avait quoi, une quinzaine de mètres. Par contre, à marée haute, il y avait au moins 100 mètres à faire avec le canot. Ouais. On faisait ça, on aimait faire ça. On allait chercher le poisson avec ma grand-mère. On prenait la canotte et on venait avec le poisson parce que les pêcheurs de poisson, ils déposaient le poisson à Grand Fort Philippe. Et nous, on habitait à Petit Fort Philippe. Ouais. Bon, je vous raconte ma vie, mais bon. Ça vaut le coup quand même, je sais pas, j'ai eu une belle vie. Hein. Et elle sera encore plus belle quand je serai dans une petite boîte, là, où je pourrai penser à n'importe quoi. Non, je raconte des conneries, mais non. Bon, allez, tiens, on va se payer un deuxième morceau. Et là, c'est de Prévert par Serge Rignani, La batteuse.
La batteuse. La batteuse est arrivée, la batteuse est repartie. Ils ont battu le tambour, ils ont battu les tapis, ils ont tordu le linge, ils l'ont pendu, ils l'ont repassé. Ils ont fouetté la crème, ils l'ont renversé, ils ont fouetté un peu leurs enfants aussi, ils ont sonné les cloches, ils ont égorgé le cochon, ils ont grillé le café, ils ont fendu le bois. Ils ont cassé les œufs, ils ont fait sauter le veau avec les petits pois, ils ont flambé l'omelette au rhum, ils ont découpé la dinde, ils ont tordu le cou au poulet, ils ont écorché les lapins, ils ont éventré les barriques, ils ont noyé leur chagrin dans le vin, ils ont claqué les portes et les fesses des femmes, ils se sont donné un coup de main, ils se sont rendus des coups de pied, ils ont basculé la table, ils ont arraché la nappe, ils ont poussé la romance, ils se sont étranglés, étouffés, tordus de rire, ils ont brisé la carafe d'eau frappée, ils ont renversé la crème renversée, ils ont pincé les filles, ils les ont culbutées dans le fossé, ils ont mordu la poussière, ils ont battu la campagne, ils ont tapé des pieds, tapé des mains. Ils ont crié, ils ont hurlé, ils ont chanté, ils ont dansé autour des granges où le blé était enfermé, moulu, fourbu, vaincu, battu.
Voilà, hein. Oh, Prévert, vous savez, bon, vous le savez que c'est mon préféré. Hein. J'aurais aimé avoir un frère comme lui, mais pas seulement parce qu'il s'appelle Prévert, parce que c'était un poète, voilà, un bon poète. Et il savait qu'il n'a pas fait que de la poésie, hein. Il a fait des collages, parce que figurez-vous qu'il est tombé d'une fenêtre, et puis il est resté plusieurs mois au lit, couché, hein, parce qu'apparemment, bon, il s'était fait assez mal. Et il en a profité pour écrire, bien sûr, mais faire des collages. Et vous verriez les collages. Allez voir, par exemple, vous tapez sur Gogol, hein, vous voyez celui qui s'appelle Gogol, là. Hein, vous faites Prévert collage, et vous allez voir exactement tous ces collages. C'est à l'image de sa poésie. Voilà, c'est à l'image de sa poésie, c'est-à-dire, c'est complètement décalé, c'est beau, c'est un peu provocateur, voilà, mais bon, mais c'est très très beau. Bon. Ben, pour la peine, après Prévert, je vais vous lire un poème de Victor Hugo. Alors lui, c'est mon deuxième. C'est mon deuxième petit frère, enfin grand frère plutôt maintenant, hein, les deux là. Et Victor Hugo, c'est un encore plus grand frère que Prévert, hein. Ah oui. J'ai cueilli cette fleur pour toi. Ce fut écrit en 1855 dans l'île de Serk, S-E-R-K. Donc vous voyez, ben, c'est vrai qu'il a fait, il en a été dans des îles, lui. Hein. Il a été exilé même. J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline, dans l'âpre escarpement qui sur le flot s'incline, que l'aigle connaît seul et seul peut approcher, paisible. Elle croissait aux fentes du chancher. L'ombre baignait les flancs du morne promontoire. Je voyais comme on dresse un lieu d'une victoire, un grand arc de triomphe éclatant et vermeil, à l'endroit où on s'est englouti le soleil, la sombre nuit bâtir un porche de nuée, des voiles s'enfuyaient au loin diminuer. Quelques toits s'éclairant au fond d'un entonnoir, semblait craindre de luire et de laisser voir. J'ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée. Bon, elle est pâle, elle n'a pas de corolle embaumée. Sa racine n'a pris sur la crête des monts que l'amère senteur des glauques goémons. Mais j'ai dit, pauvre fleur du haut de cette cime, tu devais t'en aller dans cet immense abîme où l'algue et le nuage et les voiles s'en vont. Va mourir dans un, sur un cœur abîme plus profond. Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde, le ciel qui te créa pour t'effeuiller dans l'ombre, te fit pour l'océan et te donne à l'amour. Le vent mêlait ses flots et il restait là un jour d'une vague lueur lentement effacée. Oh, comme j'étais triste au fond de ma pensée, tandis que je songeais et ce gouffre noir m'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir. Août 1855. Voyez, on est dans les années, là, avec Vera Rehn, hein, Victor Hugo, ouais. Voilà, bon, mais pourquoi pas. Alors, on va changer, on va passer en 2026. En 2025, peut-être, hein, voilà. Voilà. Le silence du bruit, figurez-vous. Oui, parce que le silence, vous savez, si vous écoutez bien, il fait du bruit. Ouais, ouais. Il y a des émissions radio tellement silencieuses que c'est presque beau. C'est pas mon cas, hein. On ne dit rien, et c'est beau le rien, mais rien c'est vraiment du rien. Et c'est tellement calme que du coup le rien, c'est quelque chose qui dit que c'est bien. Je peux vous dire que c'est pas mon émission, hein, parce que mon émission, il n'y a pas que du rien. Hein. Et il y a aussi les bruits qui veulent s'imposer face au rien et au silence. Un bruit n'est jamais seul. Il demande à d'autres bruits de venir le rejoindre pour faire plusieurs bruits différents. Et comme ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, cela devient une cacophonie. Mais certaines oreilles incultes aiment cela. Elles n'entendent même plus les bruits de glace et les vierges de tous ces jolis sons ont inventé la musique et parfois le bruit des cordes vocales qui vont avec. La gamme née de tout ce bruit n'arrive toujours pas à se mettre d'accord, comme tout le monde du bruit. Du coup, on ne sait pas pourquoi, mais le dos fait la cour au sol, qui cherche sous le lit, le mi et le ré, à cause des amalgames entre la partition de et la raison, d'être enfin, deux morceaux de bruit. Et être à la fin, c'est en finir avec le bruit. Et du coup, les musiciens invités pour faire du bruit s'emmerdent à cause du silence revenu. C'est pour cette raison que l'on appuie sur le bouton arrêt de la radio pour écouter enfin le silence du bruit. Le dimanche 17 février 2019, vous voyez, c'est jour, à 22h14. Et là, je peux vous dire qu'à 22h14, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, dans le coup, on va se partir sur la pointe des pieds sans faire de bruit, hein, par exemple. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, je vous aime n'importe comment. Hein. Et soyez rassurés, je reviendrai. Je vous le promets. Allez, je vous aime.